Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les élèves de CM1 CM2 de Madame Grenot de l'école d'Angoulins vont vous présenter leur deuxième émission intitulée Notre ère marine éducative sur Radio Collège 95.9 ou sur radiocollège.fr.
Nous allons commencer par vous expliquer ce qu'est une ère marine éducative.
Ensuite, nous écouterons les réponses des gens auxquels nous avons demandé ce qu'ils faisaient pour protéger le littoral. Les réponses sont étonnantes, vous l'entendrez. Nous poursuivrons avec un article sur les dégâts du changement climatique.
Nous poursuivrons cette émission spéciale littorale avec un article sur les espèces animales de l'estran. Puis nous ferons le portrait d'une ostréicultrice. Enfin, nous finirons avec une fiction de la légende de la Bétro. Et maintenant, je laisse la parole à Bimpou.
Merci Noéva. Je vais donc à présent vous préciser ce qu'est une aire marine éducative ou AME. C'est un espace délimité. Dans notre cas, il s'agit de la pointe du Chêne à Angoulins. Les objectifs de l'étude d'une AME sont de sensibiliser à la protection du littoral et d'en connaître plus sur notre environnement, mais aussi de transmettre aux autres ce qu'on a appris.
Nous l'étudions depuis plusieurs années avec l'aide des médiatrices de l'école de la mer Rachel et Tiffany. Nous le savons plusieurs fois par an sur notre littoral pour observer et étudier les paysages et les espèces vivantes et voir leur évolution.
Au fil des ans, les falaises reculent à cause de l'érosion. Nous avons pu constater le recul du trait de côte lors de nos sorties pédagogiques. Le paysage est aussi modifié par l'intervention de l'homme qui construit des digues et des bâtiments. Notre AME s'étend sur 2 à 3 ans pour chaque élève. L'année dernière, nous avons observé plusieurs espèces animales et végétales. Cette année, nous allons écrire une encyclopédie sur ces espèces vivantes.
Nous avons réalisé un micro-trottoir à la sortie des classes pour savoir ce que les gens font pour protéger notre littoral. Voici les réponses.
Quel geste faites-vous au quotidien pour protéger votre littoral ?
Je recycle mes déchets.
Quel geste faites-vous pour protéger votre littoral au quotidien ?
J'essaie de ne pas polluer, de faire attention à tous les déchets que j'utilise et de ne pas les jeter dans la mer ou qu'ils ne soient pas emportés par le vent. Comme je suis maîtresse, je sensibilise un petit peu mes élèves à la protection du littoral.
Quel geste faites-vous au quotidien pour votre littoral ?
Quand je me promène à la mer, dès qu'il y a un bout de plastique ou chose comme ça, voilà, je le prends et je le mets à la poubelle.
Bonjour, que faites-vous pour protéger votre littoral au quotidien ?
Au quotidien, mais je fais très attention à ne pas laisser de déchets. Et même quand on peut, on en ramasse. Quand il y a du plastique ou quand il y a des choses comme ça rejetées par la mer. Et puis après, on fait attention à ce que aussi les gens peuvent laisser. On fait attention aussi aux excréments des chiens. C'est des petites choses, mais ça protège le littoral. Et on respecte toutes les règles que l'on trouve sur le littoral. Et puis pour respecter également les sentiers, ne pas sortir des petits fils qui délimitent les sentiers, c'est important.
Bonjour. Alors, pour protéger le littoral, j'essaye le plus possible de me déplacer à vélo et je ramène tous les déchets à la maison et je profite de l'environnement, principalement aussi à pied, pour ne pas polluer.
Quel geste faites-vous au quotidien pour protéger votre littoral ?
Alors régulièrement, moi je fais vraiment très attention à ne pas utiliser de sacs en plastique, à réutiliser les sacs que j'ai déjà à la maison pour éviter qu'ils partent à la poubelle ou qu'ils s'envolent avec un coup de vent et qu'ils partent sur le littoral justement.
Que faites-vous au quotidien pour protéger votre littoral ?
Je jette rien par terre, rien sur la plage.
Quel geste faites-vous pour protéger votre littoral ?
Alors, bonjour, j'évite de mettre des papiers ou des saletés, jamais je ne jette rien évidemment sur une plage. Si au contraire je rencontre sur une plage des déchets, je les prends, je les garde avec moi pour les mettre dans une poubelle un petit peu plus loin, voilà. Et puis j'évite de ramasser des coquillages et des galets. Bon, des fois quand même je ramasse des petits coquillages, non mais pas trop quand même. Et puis voilà à peu près tout ce que je fais. Alors, pour protéger le littoral, dès que je vois un déchet sur la plage, lorsque je me promène, je le ramasse et je le jette. Si c'est un déchet plastique, je le mets dans une poubelle. Si c'est un déchet de la mer, je les mets dans les poubelles, les bacs à mer. Voilà. Et puis, j'évite évidemment de jeter des choses sur la plage. Et puis, voilà.
Eh bien, je veille à ne pas laisser de déchets quand je vais me promener. Et si j'en trouve, je les ramasse et je les mets dans les bacs à marée, par exemple. Ensuite, protection du littoral, si ça inclut le respect des êtres vivants dans l'eau ou sur les strands, eh bien, j'observe, je regarde, mais je ne collecte pas, c'est-à-dire que je vais retourner un caillou dans l'eau, je vais observer si je vois des coquillages ou des petits animaux et je remets le caillou ou le rocher en place pour ne pas déranger les êtres vivants.
Souvent, quand je vais à la plage avec mes enfants et que je vois des déchets souvent liés à l'activité humaine, je les prends et je les dépose dans la poubelle la plus proche. Et je pense que c'est un geste que tout le monde devrait faire.
Vous venez d'écouter les réponses des adultes interrogés en micro-trottoir sur leur rôle dans la protection de leur environnement.
Je vais maintenant passer la parole à Léonore qui va vous parler des dégâts liés au changement climatique.
Le changement climatique est un problème majeur pour les espèces marines, y compris les plantes et les animaux terrestres. À cause du réchauffement climatique, les glaciers fondent et le niveau de la mer monte. Noé va vous préciser l'impact du réchauffement de la planète sur les paysages.
Le changement climatique aggrave aussi l'érosion, les glissements de terrain et les inondations, ce qui oblige les Angoulinois à quitter leur maison. Il y a également de plus en plus de tempêtes, comme la tempête Cynthia, qui cause des dégâts sur le littoral et oblige les hommes à le protéger en construisant des parapets et en installant des rochers sur les plages. Je passe maintenant la parole à Yona, qui va vous parler des dégâts liés à l'intervention de l'homme.
L'homme, par son mode de vie, participe activement au changement climatique et donc indirectement à la déstabilisation des paysages côtiers. La surpêche, par exemple, détruit des espèces animales marines et modifie l'écosystème marin. La destruction des forêts impacte également la vie des océans.
Vous allez maintenant écouter une chanson qui parle du réchauffement climatique de Gauvin Serre appelée « Il n'y a plus de saison ».
C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il n'y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien, on se demande s'il est trop tard et ce qu'on peut faire au quotidien. Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord. Y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors. Les incendies sont en option. Non mais franchement, y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde. Y'a pas urgence de toute façon, les océans vous le diront. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. regarde nos mômes jouer aux billes dans les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la terre pourra tourner quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés? Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. Le ciel est noir à l'horizon. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. Le ciel est noir à l'horizon.
Vous venez d'entendre « Il n'y a plus de saison » de Gauvin Serre.
Maintenant, nous allons vous décrire les différentes espèces animales de notre estran. On y trouve beaucoup d'espèces comme les crabes, les huîtres, les crevettes, les mondes ou les anémones. Avec l'OIME, nous apprenons comment reconnaître ces animaux. Admine, sais-tu par exemple comment différencier le monodonte appelé le faux bigorneau du bigorneau?
Oui, Noah, je sais, tu dois regarder le ventre du coquillage. Le bigorneau a une ouverture en forme de goutte d'eau alors que celle du monodonte est ronde. Il a aussi une bosse qui est en réalité une dent sur cet opercule. Tu peux aussi regarder le dessus du faux bigorneau, car il est un peu coloré. Et toi, Raphaël, te souviens-tu comment savoir si un crabe est un mâle ou une femelle?
Bien sûr, Admin. Si le crabe a un dessous en forme de triangle arrondi, c'est une femelle, et si c'est pointu, c'est un mâle. Nous apprenons aussi des éléments scientifiques de ces espèces. Je vais vous parler des huîtres. Les huîtres sont bivalves, elles se nourrissent de plancton, ce qui peut leur donner leurs couleurs vertes. Elles ne se reproduisent qu'en été et sont élevées à côté de chez nous.
Comme Raphaël vient de vous parler des huîtres, nous passons à l'ostréiculture. L'ostréiculture et l'élevage des huîtres, c'est l'une des activités principales d'Angoulins.
Nous sommes allés avec la classe de CM1, CM2 visiter la ferme d'ostréicole de la famille de Lia, une élève de notre classe au mois de novembre. Ostréiculteur est un métier difficile car il faut soulever des sacs d'huîtres lourds et il y a beaucoup de bruit à cause des machines. Les ostréiculteurs travaillent énormément, surtout pour la période de Noël, et n'ont pas souvent de pause.
Il y a plein d'étapes avant de vendre des huîtres, comme le cattepage, le demi-élevage et l'élevage. À la fin, elles sont mises dans des clairs pour l'affinage. Toutes ces étapes ont lieu à Angoulins. L'ennemi des ostréiculteurs est le bigorneau perceur qui creuse les coquilles d'huîtres avec un acide qu'il fabrique pour pouvoir les manger. Maintenant, nous passons la parole à Manon et Alia qui vont vous faire le portrait d'une ostréicultrice.
Nous avons choisi de faire le portrait d'une ostréicultrice parce que ce métier reste une profession plutôt masculine. Nous avons interrogé Magali Couvra dans notre classe sur sa vie. Le 11 avril 1965, Magali Drouet, née d'un père ébéniste, elle a deux frères et une sœur. Petite, Magali veut être enseignante. À l'âge de 12 ans, elle part de la Sarthe pour s'installer à Angoulins avec sa famille. À 18 ans, elle passe son baccalauréat et rencontre celui qui deviendra son mari bien plus tard. En 2002, Patrice Couvra. Il est ostréiculteur et c'est ainsi que Magali devient son associé. Ensemble, ils ont deux fils, Sébastien et Benjamin, qui deviennent à leur tour ostréiculteurs. Magali apprend à aimer son travail qui devient très vite une passion. Travailler en famille est assez facile parce que chacun a ses tâches propres dans l'entreprise. Magali gère l'administratif et le quotidien. Le travail et la vie personnelle se mélangent souvent et pendant les repas de famille, on parle beaucoup de travail. L'ostréiculture est un travail difficile, surtout à Noël, mais Magali l'aime. Elle est à la retraite depuis 2 ans, mais elle continue à aider son fils qui a repris l'entreprise familiale. Elle profite aujourd'hui de ses 2 petits-enfants et adore faire de la couture. C'est maintenant une mamie formidable.
Je donne la parole à Chloé et Kelly qui vont vous raconter une histoire d'Angoulin qui s'appelle « La légende de la bête roux ».
On raconte qu'un affreux dragon à la queue écailleuse au thorax ailé possédait une intelligence presque humaine et il s'en servait largement pour tendre des pièges aux hommes, sa principale nourriture.
Sur cette côte, à l'abri des rochers, il inspirait la grande terreur. Mais un jour, une barque montée par 7 héros vint combattre et juger le dragon. Acculé au pont de la pierre, 7 flèches l'atteignent. 2 aux yeux, 2 aux oreilles, 2 aux narines et la dernière cloue les lèvres, hurle de douleur et de désespoir.
Les 7 héros le traînent dans un gouffre à la pointe du chais et s'asseyent en rond sur les 7 pierres qui entourent le gouffre.
Le dragon est condamné à rester au fond de l'abîme jusqu'à la fin des temps.
C'est ainsi que cette légende se transmet de génération en génération à Angoulin.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était les élèves de CM1, CM2 de l'école d'Angoulin pour Radio Collège 95.9 ou radiocollège.fr.
Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui au cours de cette émission de radio spéciale AME. Nous vous souhaitons une bonne journée sur votre radio préférée, Radio Collège 95.9.
Rendez-vous l'année prochaine pour notre troisième émission de radio. Et en attendant, joyeux Noël à tous!